France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une décision brutale et infondée. Emmanuel Macron fustige les droits de douane de Donald Trump. Il compte sur la solidarité de ses partenaires européens pour riposter ensemble au président américain. Ce journal sera largement consacré à la nouvelle guerre commerciale de Trump qui matraque les alliés des États-Unis tout en épargnant la Russie. La Hongrie claque la porte de la Cour pénale internationale. Viktor Orban a profité de la visite de Benjamin Netanyahou à Budapest pour l'annoncer. Le Premier ministre israélien visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Bayer Monsanto nie toute responsabilité dans le handicap de Théo. Les parents de cet adolescent de 17 ans demandent des comptes aux géants de la chimie devant le tribunal de Vienne. L'actrice Anouk Grimbert élève la voix contre les violences faites aux femmes. C'était aujourd'hui dans les midis de Culture. Une parole puissante que nous entendrons à la fin de ce journal. L'Europe doit rester unie face à Donald Trump. Emmanuel Macron en appelle à la solidarité européenne au lendemain de la rafale de droits de douane annoncée par le président américain. 10% pour tous les produits importés aux États-Unis, 54% pour la Chine, 24% pour le Japon et 20% pour l'Union européenne. En ce moment, à l'Élysée, Emmanuel Macron réunit les acteurs de l'économie française directement touchés par ces surtaxes. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Le chef de l'État se dit prêt à riposter à Donald Trump avec des mesures de rétorsion.
Oui, et le président français qui a d'abord livré sa première réaction suite aux annonces de Donald Trump.
La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée.
Et face aux répercussions évidentes sur de nombreuses filières françaises, le chef de l'État a souhaité avec cette réunion poser les premiers jalons d'une riposte.
De riposte, il y aura, de manière claire.
Une riposte qui ne peut être qu'européenne.
Parce que nous avons une force. C'est un marché de 450 millions d'habitants. L'Union européenne, c'est 450 millions de consommateurs. C'est plus que le marché américain.
Et de dérouler donc un agenda en deux temps. Une première réponse, mi-avril, aux droits de douane déjà en vigueur sur l'acier et l'aluminium, avant un second rendez-vous à la fin du mois pour la avancée, une réponse aux tarifs annoncés hier. Alors avec quel outil ? Des réponses tarifaires à l'activation du mécanisme anti-coercition. Il ne faut rien exclure, martèle Emmanuel Macron, mais qui insiste sur deux points. Cette réponse, elle devra se faire secteur par secteur, et c'est pourquoi il appelle aujourd'hui les acteurs devant lui à faire remonter toutes leurs demandes et à échanger avec leurs homologues européens pour une réponse coordonnée, mais aussi, et vous l'avez dit Stanislas, une réponse solidaire.
Nous avons besoin, dans cette phase, de rester unis et d'être déterminés. Et je le dis aussi parce que je sais ce qui va se passer, les plus gros auront tendance à jouer solo. Et c'est pas une bonne idée.
Assis devant Emmanuel Macron, en effet, le patron d'Airbus, Guillaume Faury, présent aussi le représentant du groupe LVMH, à qui le président fait une demande, ainsi qu'aux autres entreprises françaises, suspendez tous vos investissements à venir ou annoncés ces dernières semaines aux États-Unis. Le temps, dit le chef de l'État, de clarifier les choses. Une feuille de route, donc, pour tenter de tordre le bras de Donald Trump et de le contraindre au démantèlement de ses tarifs douaniers.
Jeanne Serrin, merci. Alors, la logique de ces droits de douane ordonnés par Trump n'est pas vraiment imparable. Exemple, les surtaxes ne sont pas les mêmes pour l'Union européenne et pour l'outre-mer français. Chaque territoire ultramarin sera soumis à son propre niveau de taxation. 10% pour les Antilles françaises et 50% pour Saint-Pierre et Miquelon dans l'Atlantique Nord au large du Canada. Des chiffres qui sidèrent Micheline Jacques, sénatrice LR de Saint-Barthélemy dans les Antilles. Elle préside la délégation sénatoriale aux Outre-mer.
Ces taxes auront un impact considérable, particulièrement pour certains territoires et notamment pour Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque l'économie de Saint-Pierre-et-Miquelon est monosectorielle. C'est la vente de poissons vers les États-Unis, d'une part. Et deuxièmement, il faut savoir qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils exportent majoritairement des produits du Canada. Donc le fait que le Canada aussi a décidé d'augmenter les taxes sur les produits américains qui vont arriver au Canada, les Saint-Pierre-et-Miquelonais seront soumis à la double peine. En particulier, après, vous avez aussi la Réunion qui se voit taxée de 37% alors que la Chine est taxée de 34%. Il n'y a pas de cohérence, en fait. La Polynésie, 10%. les Antilles aussi 10%. Donc on ne comprend pas ce qui a poussé ces taxations différentes au regard des différents territoires.
La sénatrice LR Micheline Jacques répondait à Diane Berger. Arrêtons-nous un instant sur les grands absents de la liste de Donald Trump, car le président américain a épargné plusieurs pays dans sa volonté de taxer ceux qui menaceraient l'économie américaine. La Russie n'y figure pas, une clémence qui intervient alors que Donald Trump se démène pour obtenir de Vladimir Poutine un cessez-le-feu en Ukraine. Les explications de Frédéric Seyss.
Alors c'est vrai qu'à première vue, dans cette liste, Donald Trump semble traiter plus sévèrement ses alliés que ses adversaires. D'ailleurs, hier, au moment de dévoiler les nouveaux droits de douane, le président américain a eu cette petite phrase.
On parle d'amis et d'ennemis, mais dans beaucoup de cas, les amis nous traitent plus mal que les ennemis en termes de commerce.
Discours classique chez Donald Trump, les pays amis de l'Amérique profitent d'elle. Mais d'après la Maison-Blanche, l'explication est tout autre. Si la Russie est épargnée par ses nouveaux droits de douane, c'est tout simplement parce qu'elle est déjà ciblée par de lourdes sanctions américaines, des sanctions décidées par Joe Biden après l'invasion de l'Ukraine, embargo sur le pétrole, la technologie et même les banques russes qui ont de fait coupé tout commerce entre la Russie et les États-Unis. Il n'y a donc plus de marchandises sur lesquelles placer une surtaxe douanière. Explication à demi convaincante parce que d'autres pays, déjà eux aussi sous sanctions américaines comme l'Iran ou la Syrie, se voient pourtant imposer de nouveaux droits de douane. Donald Trump veut en fait traiter à part le dossier russe. Si Moscou refuse tout cessez-le-feu avec l'Ukraine, alors le président américain menace d'affaiblir encore l'économie de la Russie avec ce qu'on appelle des droits de douane secondaires, c'est-à-dire des sanctions contre les pays qui achètent du pétrole russe comme l'Inde ou la Turquie. Et visiblement, Donald Trump veut encore garder cette carte dans sa manche.
Frédéric Seyss, merci. La Russie, absente de la liste de Donald Trump, contrairement à l'Italie, surtaxée à 20% comme tous les pays de l'Union européenne. Une véritable douche froide pour Giorgia Meloni, qui avait été la seule dirigeante de l'UE, invitée à l'investiture du président américain en janvier dernier. Fidèle alliée de Trump, amie d'Elon Musk, la première ministre italienne, est obligée de durcir le ton avec Washington pour défendre les intérêts économiques de son pays. Bruno Duvic nous appelle de Rome.
Elle devait être dans le sud de l'Italie aujourd'hui, mais Giorgia Meloni est restée à Rome pour travailler à la réponse à ce désaveu que lui inflige Trump. L'éditorialiste de la RAI, Stefano Feltri.
Giorgia Meloni n'a eu aucun traitement de faveur. Ils auraient pu épargner certaines marchandises. Cela n'a pas été le cas.
Chacun le constate, l'Italie n'a pas joué, comme elle le prétendait, les intermédiaires entre Washington et les pays européens.
Ils ne lui ont pas permis de jouer ce rôle.
Raffaele Speranzon, sénateur Fratelli d'Italia, le parti de Meloni.
Si les Européens deviennent moins dogmatiques, ils verront que Giorgia Meloni est la personnalité qui a le plus de poids auprès de Trump.
Une carte reste à jouer pour entretenir l'idée d'une relation privilégiée. Le vice-président américain J.D. Vance est attendu dans 15 jours à Rome. Le professeur d'histoire des institutions politiques à l'université Louis, Lorenzo Castellani.
Vance est chargé par Trump d'entretenir le lien avec les alliés, pas seulement les États, mais les alliés politiques. Et Meloni est considérée comme une alliée politique.
Alliée politique de Trump ou des Européens, pour l'instant, à jouer sur les deux tableaux, Giorgia Meloni n'enregistre que des déconvenues.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie. Contrairement à Giorgia Meloni, le chancelier allemand Olaf Scholz n'est pas un proche de Donald Trump et son probable successeur conservateur Friedrich Merz non plus. L'Allemagne, qui a besoin du marché américain pour son économie, très dépendante des exportations. À la grande foire industrielle de Hanovre, ce sont les entreprises du monde entier qui expriment aujourd'hui leur inquiétude. C'est un reportage de Sébastien Baer.
À l'entrée du pavillon 12, c'est la pause café pour certains exposants. Cet après-midi, les discussions tournent autour d'un unique sujet, les droits de douane de Donald Trump. Dong Liu, qui vend des capteurs pour une entreprise chinoise, ne digère pas les 34% imposés à son pays.
Je trouve ça incroyable, cela n'a aucun sens, c'est complètement inutile. Les taxes ne sont jamais la solution. Trump n'a que ce mot à la bouche, il ne connaît que ça, les taxes.
Avec 31% de droits de douane, la Suisse est frappée encore plus durement que l'Union européenne. Werner Stiegel, qui fabrique des turbocompresseurs près de Berne, dénonce le passage en force de Donald Trump.
Il avait dit qu'il serait gentil avec les droits de douane, mais ça va faire mal. Cela aurait été bien de chercher des solutions diplomatiques, mais il n'y a eu aucune discussion.
En attendant la réponse de l'Union européenne et, espère-t-il, un éventuel assouplissement des droits de douane, Hans Bekov a pris sa décision. Il va augmenter le prix des produits qu'il vend sur le marché américain.
Soit j'augmente mes prix, soit je fais cadeau de 20%, ce qui n'est pas possible car la marge n'est pas si importante que ça en Amérique. À plus long terme, on pourrait délocaliser la production aux États-Unis.
Éric De Becker, un commercial belge qui travaille pour une entreprise française, estime, lui, que la situation n'en restera pas là.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi ? On verra bien combien de temps ça va durer, quoi. Parce qu'il se punit lui-même à terme aussi, hein. Parce qu'il y aura des représailles, à mon avis, ouais. Ça ne va pas rester sans réaction, quoi.
Olaf Scholz, qui a inauguré la foire en début de semaine, a qualifié d'erreur la décision de Donald Trump. Le chancelier a promis une réponse européenne unie, forte et appropriée.
Sébastien Baer, depuis la foire de Hanovre. Pour des raisons différentes, l'Irlande a aussi tout à redouter des nouveaux droits de douanes américains. Depuis des années, le pays abrite de nombreuses multinationales américaines grâce à une fiscalité avantageuse, un modèle économique qui pourrait bien se retourner contre lui, comme nous l'explique à Dublin, Clémence Pénard.
Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a exprimé ses profonds regrets à peine quelques minutes après la fin du discours de Donald Trump, déplorant une décision injustifiée. Et pour cause, l'Irlande dépend fortement en termes de fiscalité et d'emploi des investissements américains. Son modèle économique s'étant bâti sur l'implantation des géants de la tech et de la pharma. Les tarifs seront un défi majeur pour les exportateurs irlandais, avec l'agroalimentaire en première ligne, puisque les 20% de droits de douane, c'est l'avantage accordé à ses principaux concurrents dans le secteur, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, seulement à 10%, qui pénalise l'Irlande. Pour l'instant, l'industrie pharmaceutique, elle, est épargnée. Pourtant, 44 milliards d'euros de produits pharma ont été vendus aux Américains l'année dernière, mais c'est un répit de courte durée. Des droits de douane spécifiques sont attendus dans les semaines à venir. Micheál Martin plaide ainsi pour une réponse mesurée de la part de l'Union européenne. L'Irlande joue très gros.
Clémence Pénard en Irlande, qui conclut ce tour d'Europe des pays touchés par les surtaxes de Donald Trump. La Hongrie quitte la Cour pénale internationale. Le gouvernement de Viktor Orban l'a annoncé ce matin, au moment même où il reçoit en grande pompe Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est justement sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Viktor Orban l'avait invité à Budapest dès l'annonce de ce mandat. Une décision honteuse, selon le Premier ministre hongrois. Et pourtant, Claude Guibal, la Hongrie avait ratifié le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, sous le premier mandat de Viktor Orban.
Et c'est en cela que la visite de Benjamin Netanyahou, poursuivie par la CPI, était en soi un défi lancé à l'autorité de la Cour. En tant que membre fondateur de la CPI, la Hongrie est en effet théoriquement tenue d'arrêter et de livrer toute personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour. La Hongrie, jusqu'alors, louvoyait en affirmant ne pas être obligée de se conformer aux décisions de la CPI car elle n'avait pas validé la convention associée à son adhésion pour des raisons constitutionnelles, mais en annonçant aujourd'hui lancer la procédure de départ de la CPI, la Hongrie passe un cap. Elle rejoint le Burundi et les Philippines, seuls autres pays membres à avoir quitté l'institution. De nombreux autres pays, on le sait, n'en reconnaissent pas l'autorité, comme les États-Unis par exemple ou Israël, mais tous les pays de l'Union européenne, eux, sont signataires et membres de la CPI. Mais le mandat d'arrêt prononcé contre Benjamin Netanyahou a fait vaciller l'unanimité européenne. Derrière la Hongrie, qui avait déjà annoncé ce possible retrait après l'annonce de sanctions américaines contre le procureur de la CPI, d'autres pays européens se refusent à exécuter l'ordre de la Cour, comme l'Autriche ou l'Allemagne, qui entend recevoir prochainement le Premier ministre israélien.
Et lors d'une conférence de presse commune à Budapest, Benjamin Netanyahou n'a pas manqué de remercier Viktor Orban d'avoir quitté la Cour pénale internationale. Le Premier ministre israélien salue, je cite, « la décision courageuse de tenir tête à cette organisation corrompue ». Une mauvaise nouvelle pour l'emploi dans le secteur de la grande distribution. Le groupement des mousquetaires Intermarché va fermer 30 magasins qu'il venait de racheter au groupe Casino, en l'occurrence des Intermarché et des Netto. 680 salariés sont concernés. Ils ont été informés aujourd'hui en CSE, Comité Social et Économique. Raphaël Ebenstein, le groupement des mousquetaires promet déjà des offres de reclassement dans d'autres magasins.
La procédure devrait sans doute durer au moins 3 mois selon des sources en interne et le groupement mousquetaire assure qu'il accompagnera au mieux les 680 salariés des 30 magasins dont la fermeture semble inévitable. en proposant notamment des reclassements dans d'autres points de vente. Les mousquetaires ont repris au total 294 hyper- et supermarchés casinos en plusieurs vagues depuis la fin 2023. Et leur relance sous enseigne Intermarché ou Netto se passe globalement très bien, à en croire le groupe, avec des croissances moyennes de 20 à 30% du chiffre d'affaires et 1500 embauches en plus de la reprise des anciens personnels. Sauf donc à certains endroits, en raison d'un manque d'investissement ces dernières années jugé impossible à combler, de loyers trop élevé ou de la présence d'autres acteurs de la grande distribution dans la même zone. Les magasins condamnés perdraient ainsi plusieurs millions d'euros par an, rendant impossible leur exploitation et même leur revente à des concurrents.
Autre mauvaise nouvelle pour l'emploi, la chaîne de magasins Jiffy, qui s'était restructurée financièrement en janvier, annonce aujourd'hui la suppression d'environ 300 postes, soit 5% de son effectif total. Le groupe Jiffy, qui emploie 6 000 personnes en France, va fermer 11 de ses 570 magasins. Quand une famille en souffrance se retrouve face à un géant de la chimie, c'était ce matin au tribunal de Vienne en Isère. Les parents de Théo, 17 ans, ont affronté la multinationale Bayer Monsanto. Ils accusent le glyphosate, l'herbicide produit par le groupe, d'avoir causé des malformations irréversibles à leur enfant handicapé. La mère de Théo avait utilisé la substance pendant sa grossesse. À l'audience aujourd'hui, Bayer Monsanto a nié toute responsabilité dans ce drame. Guillaume Fariol.
Il n'y a eu aucune exposition au glyphosate. L'avocat de Monsanto remet en cause l'origine même de l'affaire. Il s'attaque aux témoins qui disent avoir vu Sabine Grataloup asperger le pesticide à l'été 2006, pas crédible selon lui, tout comme le bidon de désherbant fourni par la famille. La défense l'assure, un détail dans l'étiquette montre qu'il est postérieur au fait. Tout s'effondre, assène le camp Monsanto, sous le regard agacé de la mère de Théo, secouée et inquiète face aux moyens colossaux de ses adversaires.
Je trouve que c'est vraiment tout le symbole de la difficulté pour les victimes des pesticides à obtenir justice.
Mais la mère de famille garde espoir. Ses avocats ont longuement expliqué pourquoi il ne fait, selon eux, aucun doute qu'elle a bien pulvérisé ce glyphosate pendant les premières semaines de sa grossesse, quand le fœtus est particulièrement vulnérable.
Mais je garde confiance en la justice. Ils vont étudier soigneusement le dossier qui ne se réduit pas aux présentations caricaturales qui ont été faites par nos adversaires. Nous avons apporté un dossier étayé, malgré nos peu de moyens.
Une bataille également à coups d'études scientifiques dans chacun des camps, avec un obstacle de taille pour la famille Grataloup. Il n'existe aujourd'hui pas de preuve indiscutable de l'effet du glyphosate sur les fœtus.
Guillaume Fariol depuis le tribunal de Vienne, le tribunal qui rendra sa décision le 31 juillet prochain. Une parole forte pour conclure ce journal, celle de l'actrice Anouk Grimbert, à la pointe du combat pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. On l'a beaucoup entendu dernièrement pour soutenir les plaignantes dans le procès de Gérard Depardieu. Anouk Grimbert publie aujourd'hui Respect, un texte autobiographique court mais direct. Elle y décrit les violences sexuelles subies dès l'enfance, mais aussi sa relation toxique avec son ancien compagnon, le réalisateur Bertrand Blier, disparu en janvier dernier, qu'elle accuse d'emprise et d'abus psychologiques. Anouk Grimbert était l'invitée des Midis de Culture aujourd'hui.
Je raconte mon histoire, mais je sais qu'en racontant mon histoire, je parle d'un nous, je parle de millions de femmes, si ce n'est de milliards, qui sont agressées plus ou moins violemment, parfois très violemment, et qui, à la suite de ça, sont brisées à jamais, et se taire dans un silence qui est le propre de ces crimes-là, les crimes sexuels, c'est que je ne comprends pas ce qu'il y a avec ce putain de crime, quoi. Comment ça se fait que les victimes sont coupables et que les coupables sont innocents? Il y a quelque chose qui vraiment tourne pas rond et qui, évidemment, est le travail inconscient de la société ou des familles qui fabriquent le déni, qui fabriquent l'omerta. C'est-à-dire que, quels que soient les viols ou les violences par lesquelles on est passé, c'est à la femme d'avoir honte, c'est à la femme de se taire, c'est à la femme de ravaler son envie de mourir, que les hommes distillent en nous. Les hommes, ils savent pas. Il faut qu'ils comprennent, putain, quoi! Il faut qu'ils comprennent que quand ils nous touchent de force, quand ils nous forcent, quand ils nous violent, ils nous tuent. On a beau être vivant encore, on a beau marcher dans les rues, travailler, avoir des maris, des enfants, quelque chose est mort en nous, et eux, ils rigolent. derrière l'enceinte de l'impunité. Et ça suffit vraiment, ça suffit quoi.
Les mots d'Anouk Grimbert au micro de Marie Laborie dans les Midis de France Culture, entretien complet à retrouver sur notre site et sur l'application Radio France. Son livre Respect est publié chez Julliard. Un mot de la météo, franchement printanière demain, soleil et douceur sur tout le pays, malgré une matinée nuageuse de la Bretagne au sud-ouest. Quelques nuages aussi sur les Alpes et le Jura, les températures minimales iront de 2 à 12 degrés. L'après-midi, le thermomètre s'envole entre 19 et 25 degrés en moyenne. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Jordan Fuentes.